Salut à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième épisode d'Époque, dans un nouveau format. Je suis Isis, et aujourd'hui, je vous propose que l'on analyse ensemble la montée du terrorisme d'extrême droite dans notre société. Le djihadisme marquera l'histoire des deux dernières décennies. Mais un autre terrorisme moins médiatisé ensanglante aussi l'Occident ces dernières années. Celui des suprémacistes blancs d'extrême droite. Le 22 juillet 2011, un homme habillé en policier se présente sur l'île norvégienne d'Utøya alors que se déroule un camp de la Ligue des jeunes travaillistes. Il est près de 17h30 quand, armé d'un fusil d'assaut et d'un pistolet, il commence à tirer méthodiquement sur les adolescents et les adultes présents sur l'île.
Ils étaient environ 600 à participer à l'université d'été de la jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya, proche de la capitale norvégienne. La fusillade s'est rapidement transformée en massacre. Les jeunes gens qui y ont échappé ont encore du mal à parler.
Ce lieu qui devait porter les aspirations et les utopies de jeunes militants va devenir l'espace d'un moment, leur enfer sur terre. Le calvaire durera 1h12, non-stop. Et prendra fin après l'intervention des forces spéciales norvégiennes. L'assaillant, Anders Breivik, a fait exploser un peu plus tôt dans l'après-midi une bombe dans les quartiers des ministères à Oslo. Cette double attaque fera 77 morts, 99 blessés graves, et laissera plus de 300 personnes en état de choc post-traumatique. Le criminel se revendique du fondamentalisme chrétien. Il soutient l'ultranationalisme, l'islamophobie, l'antiféminisme et défend la nécessité de lutter contre le multiculturalisme, même par des moyens violents. Il tentera de faire de son procès une tribune publique.
Anders Behring Breivik plaide non coupable. Son procès s'est ouvert ce matin à Oslo, en Norvège. Breivik est pourtant bien responsable de l'un des pires épisodes de l'histoire norvégienne. Il y a 9 mois, le 22 juillet 2011, il avait tué 77 personnes. « Je reconnais les faits, mais pas ma culpabilité au sens pénal », a-t-il déclaré au début de l'audience, estimant qu'il avait agi en légitime défense contre des traîtres à la patrie, coupables selon lui de brader la société norvégienne à l'islam et au multiculturalisme. Fin de citation.
Ces événements de Norvège marquent le début d'une décennie où l'Occident va connaître une prolifération de violences et d'attaques terroristes d'extrême droite. Ce phénomène fera au moins 194 morts et représente actuellement plus de 350 attaques. Début 2019, la double fusillade de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui emportera 50 personnes, demeure la dernière tuerie d'ampleur. Le terroriste, Brendan Tarrant, se réclamait directement du massacre d'Utøya. Avec une quinzaine d'attaques mortelles en Amérique du Nord, en Europe ou en Océanie depuis 2011, les attaques terroristes d'extrême droite se révèlent de plus en plus fréquents. Médiatisés en partie, puis souvent oubliés, ils semblent représenter des actions isolées. Pourtant, les attaques demeurent bien reliées entre elles. Chacun des assassins de cette dernière décennie s'est inspiré, a soutenu ou célébré un ou plusieurs des autres terroristes. Un élément particulier rassemble ces individus ou ces groupes identitaires et suprémacistes violents, celui de la thèse dite « du grand remplacement ». Le terroriste Brendan Tarrant l'a inscrit en haut du manifeste qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux juste avant le massacre de Christchurch.
Sur ces photos extraites de son compte Twitter, on distingue des inscriptions en blanc, notamment les noms d'autres tireurs de masse, comme Luca Treini, un Italien d'extrême droite, qui a ouvert le feu dans les rues de Macerata l'an dernier, faisant 6 blessés, tous d'origine africaine. Le tireur de Christchurch serait lui aussi imprégné d'une idéologie raciste et anti-musulmane. Sur Internet, il a publié ce manifeste, 74 pages, intitulé « Le grand remplacement ».
Cette théorie se base sur l'idée que les Blancs sont menacés d'être remplacés, chez eux, par des populations étrangères. Quelle que soit votre origine ou couleur de peau, si vous n'êtes pas blanc, vous êtes un élément du remplacement et donc une menace. En Europe, cette approche se base sur deux éléments qui n'ont jamais été démontrés. Le premier est que la population blanche est en passe d'être dominée par les migrants non caucasiens, particulièrement les musulmans et leurs descendants. Pourtant, si on regarde la France, cette population peine bien à dépasser les 12%. Le deuxième réside dans le fait que les élites au pouvoir demeureraient les complices volontaires d'une immigration massive pour le bien de la mondialisation libérale. Cette soi-disant menace crée de la peur qui engendre plusieurs formes de violence, dont les plus terribles, comme le prouve cette décennie d'attentats d'extrême droite. D'autres institutions européennes sont dans le viseur de l'ultra-droite. Le président Emmanuel Macron aurait été la cible d'un complot déjoué par les autorités françaises.
Le principal suspect vivait ici, à Saint-Georges-de-Caumier, en Isère. Chez lui, les enquêteurs ont découvert une arme de poing et des amorces de grenades. Cet homme de 62 ans affichait son appartenance à l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Sur sa page personnelle, il utilisait une photo de Marion Maréchal, épée à la main. Sur sa photo de profil, il appelait à la rébellion, là encore avec une photo d'arme. Au même moment, 5 autres personnes ont été interpellées dans 3 départements distincts. Une femme en Isère, une personne en Ille-et-Vilaine et 3 autres en Moselle. Tous seraient liés à l'ultra-droite et projetaient une action violente contre Emmanuel Macron.
Le Premier ministre espagnol et les ministres d'affaires étrangères allemands ont aussi été menacés par des attaques d'extrémistes. Malgré cela, des personnalités politiques continuent de cultiver d'une façon ou d'une autre la théorie du grand remplacement. Et, en ce faisant, elles nourrissent la montée des peurs, des haines et de la violence. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban dit vouloir préserver l'Europe chrétienne en dressant des barrières contre les migrants. De l'autre côté de l'Atlantique, le président que vous connaissez tous bien, M. Donald Trump, se bat politiquement pour dresser un mur entre son pays et le Mexique. D'une façon générale, les musulmans et les immigrés deviennent des cibles politiques des gouvernements de la Pologne, de l'Italie ou de l'Autriche. Un peu partout, les partis d'extrême droite tentent de capitaliser sur la peur de l'étranger. En France, Marine Le Pen dit ne pas connaître cette théorie du grand remplacement et qu'elle n'a jamais utilisé ce terme. Pourtant, elle voit le pacte de Marrakech et les politiques actuelles sur l'immigration comme l'organisation de la submersion migratoire de l'Europe. Elle l'a confirmé lors d'une interview sur RTL.
Il va falloir que nous fassions un bilan. Car la réalité, c'est que l'immigration est massive dans notre pays et que la submersion migratoire que nous vivons n'est pas un fantasme. C'est le secret peut-être le mieux gardé de la mondialisation. C'est son principe, c'est son moteur. C'est un sujet dont aucun candidat n'a parlé et qui est un sujet de très vive inquiétude.
Bien sûr, de nombreux responsables politiques dénoncent les propos extrémistes et parfois la peur des migrants. C'est le cas du maire de Palerme, en Sicile, Léo Luca Orlando, qui va même plus loin en leur ouvrant les portes de sa ville.
Léo Luca Orlando était l'un des rares hommes politiques italiens à défier les positions du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Ce dernier refusait que le navire humanitaire Aquarius, au secours des migrants en Méditerranée, ne débarque en Italie. Le maire de Palerme, lui, le soutenait. Sa ville était prête à l'autoriser à accoster dans son port.
Quand quelqu'un me demande combien d'immigrés vivent à Palerme, 30 000, 40 000, 80 000 ou 100 000, je réponds personne. Celui qui habite à Palerme est un palermitain. Je ne fais aucune différence entre ceux qui sont nés dans la ville et ceux qui y vivent.
Pour le maire de Palerme, qui distingue des êtres humains selon leur race, prépare Dachau et Auschwitz. Les femmes et les hommes politiques d'extrême droite ne sont pas les seuls à nourrir la thèse du grand remplacement. Certains organes de presse y participent parfois même indirectement. Mais surtout Internet et les réseaux sociaux demeurent un outil important de prolifération de discours complotistes et de haine dans le monde. Les contenus de suprémacistes blancs y sont bien présents. Certains des plus radicaux, qui mènent des attaques, utilisent les réseaux sociaux pour annoncer leurs méfaits ou diffuser en direct leurs exactions, comme le terroriste de Christchurch. Cette tuerie a poussé la première ministre néo-zélandaise à lancer l'appel dit de Christchurch avec Emmanuel Macron afin de susciter une meilleure régulation d'Internet concernant les violences en ligne. L'appel donna lieu à un sommet international qui se déroulait en France le 15 mai 2019 en présence de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants de grandes entreprises du numérique dont Facebook, Google et Twitter.
Un grand sommet à Paris pour lancer l'appel de Christchurch. 2 mois après la tuerie commise dans 2 mosquées de cette ville en Nouvelle-Zélande, Emmanuel Macron recevait une 20aine de chefs d'État et de gouvernement pour mettre en commun les efforts de lutte contre la propagation de contenus haineux et violents sur Internet. Un effort historique pour la première ministre néo-zélandaise dont le pays reste extrêmement choqué par les 51 victimes de cette tragédie.
Mais cette conférence pourra-t-elle réellement changer quelque chose sur le long terme afin de réguler le web sur les contenus haineux? On peut en douter, vu la complexité de cette problématique et l'absence d'acteurs majeurs comme les Américains ou les Russes. D'après un article d'éclairage du journal britannique The Economist, repris dans Courrier International en avril 2019, le terrorisme d'extrême droite demeure une menace sous-estimée. En attendant, et malgré les traumatismes du massacre du 22 juillet 2011, la Ligue des jeunes travailleurs norvégiens a repris, depuis 2015, leur rassemblement sur l'île d'Utøya.
4 ans après la tragédie d'Utøya, les militants des jeunesses travaillistes de Norvège se réunissent pour la première fois sur cette petite île où l'extrémiste Anders Breivik avait assassiné 69 personnes. Plus d'un millier d'activistes du parti du centre-gauche se sont réunis pour un week-end de travail et pour lutter contre le traumatisme laissé par la tragédie, la même où Anders Breivik avait ouvert le feu sur la foule d'adolescents.
Sans céder à la peur, les jeunes militants veulent continuer de défendre leurs valeurs ainsi que leur engagement pour le multiculturalisme. Voilà, ce nouvel épisode d'Époque est terminé. Merci à Dao et Maureen ainsi qu'à notre partenaire, le Podcast Journal. Avant de se quitter, je vous invite à vous abonner dès maintenant sur la chaîne et à partager ça autour de vous sur les réseaux sociaux. Allez, je vous laisse. À très vite, portez-vous bien.